pouvoir écrire le livre de dialogue avec Christian de Porzamparc, Philippe Solers, qui reparaît en folio, c'est une divine surprise. Et puis maintenant, il y a Une vie divine, ce roman que vous publiez chez Gallimard. Le mot roman insiste sur la couverture et ça m'incite à vous demander, peut-être pour commencer à parler de ce livre, où vous en êtes, vous, par rapport au roman.
Je suis dans une position qui me paraît très féconde et oubliée, qui est celle d'ailleurs française, très française, évidemment française. Mais comme les Français vont très mal, paraît-il, et qu'ils ne savent plus très bien qui ils sont, et que leur identité est perdue, et qu'on ne sait plus où on est, semble-t-il. Alors, voilà une nouveauté, d'affirmer que c'est un roman qu'on aurait appelé, au XVIIIe siècle, comme il y en a eu plein d'admirables, un roman philosophique. Ça, c'est une traduction des Lumières. Et évidemment, ça n'est pas le roman à l'américaine, avec l'histoire qui va d'un point à un autre, etc., qui s'interdit toute latéralité, tout éclairage indirect, etc. Mais c'est absolument du roman. Alors le roman, là, prend une dimension intéressante dans la mesure où le narrateur est philosophe clandestin, et où brusquement lui vient à l'idée, puisqu'il vit d'une certaine façon assez étrange, avec deux héroïnes assez bizarres pour notre époque, de s'intéresser de près à un philosophe, selon lui, méconnu, qui n'est autre que Friedrich Nietzsche.
Mais il me semble quand même que le roman reste flou par rapport à ce qu'on a l'habitude de mettre sous cette étiquette. D'ailleurs, le flou n'est pas nié par le narrateur, qui est orfèvre en la matière, hein, puisqu'il dit que la littérature sérieuse du temps, le nôtre, ne peut être que floue, perturbée, irrémédiable, irracontable. Et c'est vrai qu'on a affaire là avec une vie divine, un roman qu'on serait bien en peine de raconter, parce que si on pourrait raconter la trame romanesque du livre, mais en même temps, on passerait à côté du livre.
Vous ouvrez le livre et vous trouvez un narrateur qui se trouve, est-ce un rêve, est-ce une réalité, dans une sorte de pétrification, de sentiment de tragique tout à fait net, qui en plus, est-ce un rêve terrible se voit avec son crâne ouvert. Et donc il se demande ce qui vient de lui arriver, est-ce qu'il va pouvoir refermer son crâne ou pas. Cette histoire du crâne, d'ailleurs, file à travers tout le livre.
Et on la trouve chez Baudelaire.
On la trouve immédiatement après, dans le cimetière où, vous savez, Hamlet et Horatio sont là en train de soupeser le crâne de Yorick. Donc vous avez une atmosphère très, très, très tragique. De cette atmosphère tragique, comment sortir? Tous mes livres, c'est la même chose. C'est le roman se signifie comme ça. Il y a une situation tragique, invivable, irrespirable, sentiment de dévastation, d'absurdité particulièrement aiguë, qui pourrait tourner à la nausée, disons, sartrienne. Mais comment sortir? En somme, comment guérir? Moi, j'écris des romans pour décrire la façon de guérir d'une maladie infernale constante que nous vivons tous à travers nos échecs, nos embarras et nos cauchemars. Comment guérir? Ah, voilà. Comment s'organiser pour guérir? Eh bien, là, ce thème étant fondamental, on appelle les témoins principaux de cette affaire, c'est-à-dire qui ont eu le sentiment même que l'humanité, après tout, était peut-être une maladie, une profonde maladie. La Terre a une maladie, dit Nietzsche, par exemple, c'est l'homme.
Mais ça, c'est le départ de feu.
Hein, c'est à Alors partir après, de... vous avez c'est à partir tout, de naturellement, là. Parce que les conditions, tout à coup, quelque chose s'ouvre, et là, le narrateur rencontre ce personnage qui s'appelle Ludivine, Ludy, qui est une petite vendeuse de mode, et qui ensuite va faire une ascension.
Ludivine.
Divine,
Ludivine. Divine.
Ludie. Ludie, Ludie ou Ludie, voilà. Et donc, c'est une blonde que je décris la façon dont elle est. Rien ne devrait marcher entre ce philosophe assez soupçonneux et tragique et cette petite bonne femme d'aujourd'hui, enfin, comme ça, après. Eh bien, ça marche, justement. Voilà, ouais, voilà.
Mais
voilà
vous voyez surprise. Comme vous êtes.
Donc, ça se raconte très bien. Et après ça, il y en a une autre qui arrive, qui n'est pas du tout dans le même genre.
Mais voilà. Je vous parle du roman, je vous parle du roman, j'essaie de parler du roman avec vous, et tout de suite, vous me parlez de Ludivine, une jeune femme, bon, blonde, très belle, etc.
Je vais vous parler de Nelly, etc. Alors, et puis alors après, on va aller à autre chose.
Mais pourquoi vous y tenez à ce point, à ce mot roman ?
Mais parce que j'y tiens énormément, parce que je crois qu'en effet, pour être tout à fait plat, s'il le faut, mettre les pieds dans le plat, du plat, je pense que la vie est un roman et que si on n'organise pas son existence comme un roman, comme un héros de roman, ne viennent pas à vous les événements les plus intéressants de la vie. Et chaque fois que je commence un roman, je ne sais pas du tout très bien où ça va me mener, mais mystérieusement, parce que je me mets en position d'être dans un roman. Il faut savoir raconter des choses. Voilà. Et donc, évidemment, la poésie va commencer à irriguer cette vie romanesque. Mais je pense que les grandes aventures philosophiques sont aussi des romans. Et en tout cas, c'est vérifiable pour Nietzsche, parce que je ne crois pas que vous trouverez ailleurs, présenté sous une forme aussi claire, aussi fraîche, le fait qu'il a vécu exactement comme il l'a pensé, ou que sa pensée et sa vie n'ont fait vraiment qu'un comme dans un roman d'aventure. Et là, pour ça, il fallait quand même travailler. Il faut que ça ne se voit pas, mais être très au courant de sa biographie, de ses déplacements, de sa façon de vivre, lire sa correspondance, etc. Vous avez toute une bibliothèque de philosophes sur Nietzsche, absolument barbante. Vous lisez les citations de Nietzsche et ça pourra amplement vous suffire. On le transforme en système, on le transforme en n'importe quoi. La vie de Nietzsche est un roman. Et justement, c'est ça qu'il faut dire.
D'ailleurs, vous avez fait le travail pour le lecteur, puisque le livre est en grande partie composé de citations que vous...
Et comme je le dis, ce
retranscrivez tel quel, comme on disait.
Ce ne sont pas des citations. C'est-à-dire que dans mon laboratoire romanesque, j'ai la prétention de montrer que ce sont des preuves, c'est-à-dire que je montre, je fais vivre quelque chose. Voilà. Donc, le terme de citation qui est évidemment employé. Ah bon, vous faites des citations.
C'est à cause de vous, vous mettez des guillemets. Pourquoi vous avez mis des guillemets ?
Mais parce qu'il le faut. Il faut montrer que ce sont des prélèvements très précis. Nous sommes dans un laboratoire, je ne vais pas mélanger les flacons.
Et un roman peut se composer à partir de citations.
Un roman. Écoutez, là, la composition est en effet très importante. J'ai un prédécesseur est-ce qu'on peut appeler le terme de montage, la composition, c'est Debord. Debord a dit, vers la fin de sa vie, de façon tout à fait magistrale, c'est un très grand professionnel de cela, il a dit, les citations sont utiles dans les époques de croyances obscurantistes, d'illettrisme généralisé, ce qui est bien notre époque, n'est-ce pas ? Et donc, ça a le mérite de pouvoir montrer des choses qui ne sont plus reconnues. En réalité, est-ce que vous êtes attentif ou pas à la façon dont quelque chose est dit ou pas ? Donc, c'est une question de style, et c'est très important d'insister sur la forme. Par exemple, je préviens l'auditeur ou l'auditrice qu'elle ou il n'aura jamais lu ce que je cite, que je montre plus exactement de Nietzsche, croira connaître Nietzsche et ne le connaît pas. Parce que croira connaître Baudelaire et ne le connaît pas. Croira connaître Rimbaud et ne le connaît pas. Croira connaître le Marquis de Sade et ne le connaît pas, etc. etc. Et à mon avis, le travail du romancier aujourd'hui, loin d'être devoir être un naturalisme social ou un réalisme social, voire même socialiste larvé, c'est-à-dire être toujours dépendant de... C'est la commande sociale qui veut que le roman soit comme ça, toujours sur le même. Eh bien, porte sur la crise la plus profonde de notre temps, une crise qu'on peut appeler à la fois financière et neurologique, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens capables non seulement de lire plus de 10 lignes ou d'une page et demie, si elle est assez soutenue, mais en plus de s'en souvenir.
Donc vous sortez ces citations de la prison des livres dans lesquels vous les avez trouvées.
Je fais vivre quelque chose qui est soigneusement enfermé pour ne pas vivre.
Et vous les donnez à voir, c'est-à-dire
et à entendre,
à lire.
En fait, ce sont des voix, vous savez. Si vous, à partir du moment où vous dites des citations avec des guillemets, à partir du moment où vous auriez l'impression de les entendre, et soit dit vraiment sans plaisanter, pour la première fois. Parce que moi, je lis, je relis, puis tout à coup, j'entends quelque chose que je n'ai jamais entendu. C'est probable. Donc, ce sont des voix, en somme, exactement comme un théâtre, mais c'est beaucoup mieux de se passer des comédiens qui, en général, lisent mal les textes, et donc de les laisser à l'oreille éventuelle. Mmh. À moi, mais il y a, évidemment, beaucoup de monde. La plupart des gens ne lisent que des yeux, disait déjà Voltaire, et évidemment, les sourds aussi n'entendent pas. Voilà.
Alors, est-ce que, pour revenir à ma question sur le roman, on ne pourrait pas définir le roman aujourd'hui comme un mélange des superpositions, des intrications?
Le roman du 18e était fait de ça. Si vous lisez, par exemple les deux tomes parus en Pléiade des romans libertins du 18e siècle, qui sont des choses absolument merveilleuses, où d'ailleurs l'auteur principal, rarement cité, c'est pour ça que je le cite, s'appelle Anonyme. Eh bien, Anonyme a écrit des chefs-d'œuvre. Et en général, c'est fait comme ça, c'est-à-dire de rencontres, bref, de situations extrêmement rapides. Au fond, je crois que le reproche que l'on devrait me faire, c'est d'être trop rapide. Et en gros, je crois que c'est ça. Trop léger, trop rapide, trop incisif. Voilà, voilà. En réalité, c'est une question de physiologie, c'est une lutte des corps, et c'est la haine pour tout ce qui peut aller vite et juste. C'est-à-dire, au fond, une certaine aristocratie de fonctionnement. Mais une aristocratie qui n'a rien à voir avec l'ancienne. C'est ce que Nietzsche définit aussi bien et aussi, de façon aussi étrange, aussi nette, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'une nouvelle noblesse qui viendra d'on ne sait pas où. Elle ne viendra sûrement pas par généalogie, par le sang, par les privilèges. L'aristocratie, c'est fini. Ça infeste les page people. Nous avons besoin d'une nouvelle noblesse. Comment serait-elle, cette nouvelle noblesse, si tout est devenu, comme il insiste encore beaucoup là-dessus, le mot est impressionnant, si tout est devenu plèbe, plèbe en haut et plèbe en bas.
En attendant, Une vie divine, c'est un roman écrit à toute vitesse, hein, c'est vous qui venez de le dire, alors attention,
attention au radar. Qui doit donner l'impression de la légèreté et de la vitesse, c'est-à-dire d'une affirmation. Autrement dit, pourquoi? Eh bien, c'est le contraire de la lourdeur, de la lenteur, de la mélancolie, du ressentiment, de l'esprit de vengeance et du morbide généralisé.
Mais la vitesse, ça va très bien quand...
La vitesse, c'est la vie.
Quand on est en ligne droite.
Non, on peut faire... vous avez vu le cirque de Pékin? Voilà, c'est mon modèle. Vous avez vu cette fille de 14 ans qui s'appelle Liu Lang faire son acrobatie.
Vous avez retenu son nom.
Vous avez vu à quel point tous les autres cirques ont l'air lourds, lents, folkloriques.
Mais ça, c'est grâce à Mao.
Vous avez vu les assiettes, vous avez vu comment les corps sont des papillons. En ligne droite, non, on peut aller dans tous les sens, à toute allure, et enfin, de façon très souple.
Ce que je voulais dire, c'est que la forme d'une vie divine se rapproche tout
du
même
de Pékin.
Du labyrinthe.
Dont on sort.
C'est un labyrinthe.
Non, prenez l'exergue du livre. Et lisez-la, mais lentement, s'il vous plaît.
Alors, c'est une citation de Nietzsche.
Oui, mais, c'est une proposition générale. C'est Nietzsche qui a écrit ça. Mais il faut la lire lentement.
Au-delà du nord, de la glace, de la mort, notre vie, notre bonheur. Nous avons découvert le bonheur, nous connaissons le chemin. Nous avons trouvé l'issue de ces milliers d'années de labyrinthe.
Voilà. Donc, vous voyez là...
Labyrinthe d'espace et de temps.
Exact. Milliers d'années de labyrinthe. Voilà quelqu'un qui donc vous dit tranquillement, en disant nous autres, les nouveaux, nos autres philosophes. Il dit souvent, je dis nous par politesse, hein, mais enfin, parce qu'il est aussi très pluriel, mais vous sortez du labyrinthe sur des milliers d'années, c'est pas rien.
Alors, dans ce labyrinthe, il y a des repères que j'ai envie d'appeler des passions fixes. Ce sont ces deux jeunes femmes que vous avez citées tout à l'heure.
Oui. Très différentes. Une blonde, une brune, voilà. Sont équilibrées.
Jeunes femmes avec lesquelles le narrateur fait l'amour. Je ne sais pas si...
De façon très différente, oui.
S'il les aime. Il les aime.
Oh, si elles sont là, c'est parce qu'il les aime. Sans quoi, elles ne seraient pas là. Mais la question la plus intéressante, parce qu'elle est plus bizarre, c'est pourquoi l'aime-t-elle, elle ?
Non, moi, ma question, c'est quelle est la place de l'amour dans un roman ?
Quelle est la place de l'amour dans un roman ? Mais l'amour comme si, l'amour comme ça.
Il y a un roman sans amour.
Non, mais c'est très important. Vous avez les réponses faciles à travers tous les livres. Mais en effet, nous sommes dans une nouvelle définition de la façon dont vivre l'amour. D'autant plus qu'il y a deux cas là, très différents qui sont présentés. Je vous disais, la question est de savoir pourquoi une petite vendeuse de mode qui devient ensuite un personnage très important dans un groupe de mode aime un philosophe plutôt.
Est-ce que c'est vraiment un philosophe?
En principe, il n'aurait rien à voir en faire ensemble.
Le narrateur, oui, il faut parler du narrateur. Qui est-il?
Alors lui, il a une identité supposée.
Il dit qu'il est magnifiquement seul. Magnifiquement seul.
Oui. Il est magnifiquement seul par définition, puisqu'il vit dans
ben, dans le tragique. Il a ces deux jeunes femmes.
Il organise sa vie de telle façon que ça puisse être la sortie du labyrinthe. Autrement dit, là, la question de la guerre des sexes, fondamentale. Parce que, figurez-vous que toutes ces histoires d'amour, en général supposées, sont faites pour cacher cette vérité radicale, que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour s'entendre. Comme on vous vend le contraire à longueur de temps, de publicité, de romans à la con, etc., vous continuez, tout en n'y croyant pas du tout, à subir cette propagande, n'est-ce pas ? Elle est importante pour la marchandise. Sans ce thème de l'amour supposé. Alors, bon, si vous vérifiez ça au jour le jour, vous voyez bien que rien ne tient, que tout est mensonger. Alors on essaye d'aller dans la vérité, là, c'est autre chose.
Donc le narrateur, Philippe Solers, vous dites que c'est un philosophe. Bon, il est chargé par une organisation internationale d'un travail sur Friedrich Nietzsche.
Non, il est chargé, il est chargé d'un truc, comme il y en a plein aujourd'hui, complètement bidon, parce que vous savez qu'on dépense beaucoup d'argent pour le bidon.
Vous voulez dire pour faire de la recherche ?
Il est, oui... Oui, et puis après on trouve que c'est faux, etc. Enfin, je peux vous faire un laboratoire de clones, et puis en Corée, si vous voulez, puis on va découvrir que tout était bidon. Non, le bidonnage envahit complètement la notion. Non, il est chargé, en effet, de cette mission cocasse qui serait parfaitement plausible de rassembler des éléments pour savoir s'il pourrait y avoir aujourd'hui une philosophie mondiale, compte tenu des grands bouleversements que connaît cette planète. Alors, est-ce qu'on va se mettre d'accord sur une philosophie mondiale ? Alors, il faudrait faire des suggestions. Voilà, c'est censé être son travail qui lui rapporte de l'argent. Mais, parallèlement, pendant ce temps-là, comme on dit dans les films muets, il fait tout à fait autre chose, il s'intéresse de plus en plus, parce que c'est lui qui lui paraît être le philosophe qui pourrait être le plus en avance, et justement ne veut pas savoir ce qu'il a écrit pour des tas de raisons que j'explique, il se passionne de plus en plus pour Nietzsche, c'est-à-dire ce penseur, très anti-philosophe au demeurant, qui reste à mon avis largement méconnu, et recouvert de tas de falsifications.
Il va donc le lire, il va le vivre, pas seulement le lire.
Et oui, il s'agit de montrer que, vous voyez, je vais reciter d'abord, pour savoir écrire, il faut savoir lire, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Donc je veux démontrer par le roman qu'il y a une façon de vivre qui permet de lire.
Voilà.
Et que sans quoi on ne lit pas. D'ailleurs, comme vous savez, plus personne ne lit parce que plus personne ne sait vivre, d'une certaine façon, puis tout le monde est trop pressé.
Et au bout du compte, il doit en sortir un livre qu'il appelle Une vie divine, roman, dont l'objectif et de dégager Nietzsche du mauvais roman de son temps, voilà. Et d'une autre.
Oui, bien sûr.
Et d'une autre.
Parce oui, ça n'a fait que s'aggraver par la suite.
L'époque, notre époque est très présente. Alors, on peut se demander si le narrateur et l'auteur ont quelques points communs, à moins que l'auteur se sente plus proche du modèle, c'est-à-dire de Nietzsche.
C'est selon, je crois que... j'ai toujours dit que, vous savez, que Pascal dit de, derrière un auteur, on découvre un homme. Eh bien, moi, je crois qu'avec moi, il faudra se faire au contraire, c'est-à-dire qu'à travers l'homme supposé, image sociale.
Parce que là, votre narrateur...
Là, c'est Ciné Solaire, par exemple. Eh bien, il faudra découvrir un auteur. Oui. Pour l'instant, cet auteur est tout à fait méconnu. C'est moi qui le cache.
Ouais. Et vous attribuez à Nietzsche un pamphlet qui s'intitule « L'Allemagne moisie ». Donc, oui. C'est là qu'on peut se demander si... Nietzsche et Philippe Solers ne font pas qu'un.
C'est possible qu'il y ait des rencontres de cet ordre. D'autre part, je n'invente qu'à moitié, puisque vous savez que Nietzsche était très virulent sur l'Allemagne de son temps et a anticipé de façon absolument géniale, prophétique, tout ce qui allait arriver par la suite. Mmh. C'est-à-dire que si ça continuait comme ça, c'est-à-dire avec la wagnerisation, et ça, c'est son dernier grand combat, c'est-à-dire... ça va très mal finir. Eh bien, ça a mal fini, et puis ça, rien ne prouve que ça soit en train de bien se passer, le moins du monde.
On a dit qu'une vie divine était un labyrinthe, mais pour que le lecteur...
C'est une sortie du labyrinthe.
...ne se perde pas, il y a tout de même un ton, il y a une musique, il y a une couleur de voix...
On entend pas.
Une couleur qui se voit, quoi, et qui pourrait être l'ironie, quand même. C'est très ironique, toute cette histoire.
Ironique, lyrique, ça dépend des moments, il y a tous les ingrédients.
Le narrateur...
Enfin, on est plus proche de Mozart que de Wagner, vous me l'accordez.
Ouais, mais on n'est pas loin de Voltaire.
Ben, comme vous le savez aussi, ça n'a pas pu vous échapper, dans vos nombreuses lectures savantes.
Vous savez que les 520 pages de votre livre, ça m'a pris du temps.
Nietzsche a publié un livre en 1878 qui s'appelle « Humain, trop humain ». Bon, très titre, très, très célèbre, pas assez compris d'après moi. Et à qui il a dédié ce livre? Eh bien, pour le centenaire de la mort de Voltaire, 1778. Et Voltaire, dit-il, avec la modestie qui caractérise Nietzsche tout le temps, l'homme le plus intelligent, le seul homme vraiment intelligent qui a vécu avant moi.
J'ai envie de citer votre narrateur pour terminer. « Je plaisante, demande-t-il, mais oui, mais non, oui et non. » J'ai l'impression que le livre se situe bien là, entre ce oui et ce non.
Je pense que c'est un livre qui reprend les injonctions, enfin les recommandations de Nietzsche à se situer, premièrement, par-delà bien et mal, c'est-à-dire à éviter la morale comme une infection labyrinthique millénaire. La moraline. Deuxièmement, si on pouvait, c'était dans l'exergue, aller au-delà de la mort, et au-delà même de la folie. Et alors, à ce moment-là, au-delà du oui et du non, qui sont en train de se partager en noir et blanc à chaque instant, vous savez, l'axe du mal, l'axe du bien, c'est tout, on est toujours dans ce même système faux. Hein? Oui, non, oui. Tantôt oui, tantôt non, voilà. Mais oui, mais non. Il faut donc apprendre la nuance constante.
Mais tout ça étant alimenté à...
Et c'est ça l'art du roman.
Un désespoir quand même assez radical.
Mais le mot désespoir même est faible. Enfin, c'est-à-dire quand vous vous promenez, comme le narrateur souvent, enfin, comme Monsieur N, comme je l'appelle, dans le livre, qui continue à vivre parmi nous, parce qu'il ne meurt pas. Vous savez, le grand souci de Nietzsche, qui finit par écrire l'Antéchrist tout de même, c'est de situer son Dionysos et lui-même. Par rapport à se crucifier, ressusciter si vous y croyez ou pas. Mais enfin, je vous signale que vous n'auriez pas idée de dater un de vos chèques, pas plus que nul autre individu de la planète, d'une autre année que ce calendrier qu'on appelle chrétiens. Où nous sommes bien en 2006, sauf erreur. Tout le monde se fout éperdument de savoir d'où ça part. D'autres gens, d'autres calendriers, mais le calendrier économico-politique est strict. C'est-à-dire que vous êtes en 2006. Vous ne croyez absolument pas à la conséquence transcendante ou divine du fondateur supposé de ce calendrier, qui n'a jamais d'ailleurs eu l'ambition de fonder un calendrier quelconque, mais vous l'appliquez. Est-ce que ça n'est pas étrange? Qui a réfléchi là-dessus? Eh bien, pour la première fois, voilà un roman qui vous pose la question. Et vous ne pouvez pas rédiger une seule transaction financière en 2006 en vous foutant éperdument de savoir ce qui s'est passé à la date supposée qui part pour aboutir à 2006. C'est pour ça que Nietzsche a voulu changer le calendrier. Et il l'a fait.
Et que vous le suivez, puisque vous terminez votre roman par cette date.
Le 30 septembre 118.
Ce
qui est une allusion directe à ce que Nietzsche a écrit. C'est une page absolument fabuleuse. Eh bien voilà maintenant le premier jour de l'an 1 du salut, c'est le 30 septembre à Turin. Le 30 septembre 1888, vous ajoutez 118 et vous avez 2006. J'ai demandé à des gens qui sont des philosophes, des gens cultivés, qui ont lu tout ça, qui sont censés avoir lu tout ça, avoir compris quelque chose. Est-ce que ça leur évoquait de dater quelque chose de 118? Personne n'a été capable de me répondre, mais le lecteur et la lectrice va répondre, vous allez voir.
Une vie divine de Philippe Solers est publiée chez Gallimard.